VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 7 août 2020. Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres. En République démocratique du Congo, nouveau renvoi du procès en appel de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi. Les réactions se poursuivent en Côte d'Ivoire après l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara en troisième mandat. Un nouveau massacre dans le nord du Nigeria fait au moins 21 morts. La communauté internationale se mobilise pour le Liban après les explosions qui ont fait plus de 150 morts à Beyrouth. Et puis la pandémie de Covid-19 progresse dans le monde, poussant plusieurs pays à réinstaurer certaines restrictions. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'opposition ivoirienne a fustigé ce vendredi la candidature en troisième mandat annoncée par le président Alassane Ouattara la veille au soir, jugeant que la constitution lui interdisait de se représenter à l'élection présidentielle d'octobre. Alassane Ouattara ne peut en aucun cas se présenter. Ses propres experts l'ont dit, a déclaré Assoa Adou, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, l'un des deux plus importants partis d'opposition. Le chef de l'État, qui avait annoncé en mars ne pas se représenter, a justifié son revirement par le décès du candidat investi par son parti, le premier ministre Amadou Koulibaly, évoquant un cas de force majeure. Nous y reviendrons en partie magazine. Dans le nord du Nigeria, au moins 21 villageois ont été tués et 3 blessés dans des attaques menées par des hommes armés à moto dans l'état de Kaduna. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ce bilan pourrait s'alourdir d'après Luka Biniya, un porte-parole de la société civile qui fait état des 33 morts dans ses attaques contre 5 villages du district de Zangon-Kataf. Selon Mohamed Djalingué, porte-parole de la police, des hommes à moto soupçonnés d'être des bergers peuls ont pris d'assaut les villages. Les assaillants ont tiré profit de la pour passer à l'action. L'action se trouvait 18 qui participaient à un mariage dans le sud de l'état de Kaduna. Le Nigeria fait face à des attaques sanglantes de bandes armées dans le nord-ouest et à une insurrection islamiste dans le nord-est depuis plus de 10 ans.
Au Niger, 19 personnes ont péri à cause des fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le pays. Ces pluies ont aussi fait plus de 53 000 sinistrés. C'est ce qu'a annoncé le ministère nigérien de l'Intérieur dans un communiqué. Un précédent bilan officiel du 21 juillet faisait état de 9 morts et plus de 20 000 sinistrés à travers le pays. Les régions les plus impactées sont Maradi dans le centre-sud, Taoua et Tillaberi dans l'ouest et Dosso dans le sud-ouest. Par ailleurs, il y a une grande menace de criquets pèlerins qui pointe à l'horizon, a aussi mis en garde Albadé Abouba, le ministre nigérien de l'Agriculture. En République démocratique du Congo, le procès en appel de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Tshisekedi, condamné pour détournement de fonds, a de nouveau été renvoyé et cette fois-ci au 21 août. Ses partisans étaient dans la rue pour réclamer sa liberté. Le point avec Eddie Sango.
La raison évoquée pour ce deuxième renvoi du procès en appel de Vital Kamerhe est la même. Les tribunaux voudraient régulariser d'abord la saisine auprès de la République. Les avocats de M. Kamerhe se disent inquiets et s'étonnent que leur client a été condamné au premier degré et qu'on évoque aujourd'hui en appel des questions des procédures. La Cour de cassation a rejeté il y a 2 jours la 8e demande des remises en liberté provisoire de M. Kamerhe. Ses partisans sont encore sortis dans les rues aujourd'hui à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays pour exiger sa libération. Ils estiment qu'aucune preuve n'a jusque-là démontré les détournements pour lesquels il a été condamné en juin à 20 ans de travaux forcés assortis de 10 ans de privation des droits politiques.
Le chef du groupe armé centrafricain 3R sous le coup de sanctions américaines pour violation des droits humains. Le département du Trésor a annoncé la saisie aux États-Unis des biens de Bi Sidi Souleyman, également connu sous le nom de Sidiki Abbas. Il est également interdit aux citoyens américains de mener des transactions avec lui. Le groupe armé dirigé par Sidiki Abbas est accusé par Washington d'avoir tué, violé et forcé le déplacement de milliers de personnes depuis 2015. Cette semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU l'a inscrit sur sa liste d'individus et d'entités visées par des sanctions.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Donald Trump a affirmé ce vendredi que Joe Biden venait de perdre le vote des électeurs noirs après de nouveaux propos controversés de son rival démocrate, forcé de clarifier ses propos après avoir suggéré que les Afro-Américains manquaient de diversité. Joe l'endormi vient juste de perdre le vote noir. Cette déclaration est un désastre dont on ne peut pas se relever, a écrit le président américain sur Twitter. Il faisait référence à la polémique provoquée par des propos tenus par l'ancien vice-président de Barack Obama. « Je ne voulais suggérer en aucune façon que la communauté afro-américaine est monolithique », a tweeté ce matin Joe Biden en réponse à la controverse. Au Liban, l'émotion est vive 3 jours après les explosions meurtrières d'un entrepôt dans le port de Beyrouth. L'on dénombre déjà plus de 150 morts et 5000 blessés. Les partenaires du pays se mobilisent pour apporter l'aide. Mohamed Oumfa fait le point.
À Beyrouth, c'est toujours la désolation. Des dizaines de personnes sont portées disparues et il y a des milliers de sans-abri. L'OMS s'inquiète des pénuries de médicaments et de la surcharge des hôpitaux avec l'afflux des blessés. 3 jours après l'énorme déflagration qui a défiguré la capitale libanaise, les chances de retrouver les survivants s'amenuisent. Des secouristes libanais, français, allemands, russes et d'autres nationalités travaillent nuit et jour à fouiller les décombres. Les partenaires extérieurs se mobilisent. Les États-Unis envoient 15 millions de dollars de nourriture et de médicaments. Cette aide qui sera acheminée par l'armée américaine équivaut à 3 mois de vivres et de médicaments pour au moins 50 000 personnes. La France va organiser dans les prochains jours une vidéoconférence des donateurs pour mobiliser une aide humanitaire. L'Union européenne débloque 33 millions d'euros pour une première aide d'urgence. Elle a aussi coordonné l'envoi de 300 sauveteurs spécialisés et un navire hôpital italien.
Les États-Unis ont enregistré hier 2060 nouveaux décès liés au coronavirus, un sombre bilan journalier qu'ils n'avaient pas atteint depuis 3 mois. Ce rebond porte à plus de 160 000 le nombre total de morts dans le pays, de loin le plus touché au monde par la pandémie devant le Brésil. Eric Manerekiza.
À l'échelle mondiale, plus de 19 millions de cas ont été déclarés, dont 1 million en 4 jours et plus de 712 000 décès. L'Afrique a franchi hier la barre du million de cas, dont plus de la moitié en Afrique du Sud. La pandémie a fait plus de 21 000 morts sur le continent. De nombreux pays ont mis en place de nouvelles mesures de confinement ou de restriction des voyages. Les autorités américaines ont toutefois annoncé hier la levée de leurs recommandations, appelant les citoyens américains à éviter tout voyage à l'étranger. La Norvège a remis la France en zone rouge du fait de la résurgence des cas. En Espagne, la Catalogne a poursuivi une vaste campagne de détection. En France, le masque est devenu obligatoire dans les zones les plus fréquentées comme Toulouse ou Saint-Tropez sur la Côte d'Azur. Une mesure similaire est entrée en vigueur dans le quartier rouge d'Amsterdam et dans les quartiers commerçants de Rotterdam.
Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré avoir la conscience tranquille malgré les critiques sur sa gestion de la crise du coronavirus qui a fait près de 100 000 morts dans ce pays. Il a aussi traité les gouverneurs qui sont pour le confinement de dictateurs. Lors d'une cérémonie ce vendredi, M. Bolsonaro a signé un décret permettant des dépenses exceptionnelles pour la production au Brésil d'un vaccin en cours d'élaboration par l'Université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca. Ce vaccin est actuellement en phase 3 de test, la dernière avant l'homologation au Brésil et dans d'autres pays. La capitale de la Syrie en guerre est confrontée à un pic de contagion terrifiant du nouveau coronavirus. Les médecins évoquant des hôpitaux saturés à Damas et craignant de ne pouvoir répondre à une propagation fulgurante. Le ministère de la Santé, qui a jusqu'ici officiellement recensé 999 cas, dont 48 décès, a reconnu qu'il n'avait pas toujours la capacité de mener des dépistages à grande échelle dans les différentes provinces. Washington a annoncé ce vendredi des sanctions à l'encontre de 11 dirigeants hongkongais, dont la chef de l'exécutif Carrie Lam, accusée de chercher à restreindre l'autonomie du territoire ainsi que la liberté d'expression ou de réunion. Les États-Unis soutiennent le peuple de Hong Kong et nous utiliserons nos outils et nos autorités pour cibler ceux qui portent atteinte à son autonomie, a déclaré le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par John Lennon.
En RDC, l'autorité de régulation de postes et télécommunications annonce la hausse du chiffre d'affaires dans le secteur de la téléphonie mobile, passant de 379 millions de dollars américains à 381 millions de dollars pour le premier trimestre 2020. Les compagnies comme Vodacom, Orange, Africell et Airtel ont maximisé les recettes, notamment à travers l'Internet mobile et Mobile Money. Bonne performance également en Algérie pour l'opérateur des téléphonies mobiles Djezzy qui a réalisé un chiffre d'affaires global de 136 millions d'euros au deuxième trimestre. Djezzy indique par ailleurs avoir investi un peu plus de 20 millions d'euros dans le développement de son réseau, soit une hausse de 68% par rapport au trimestre précédent. L'économie américaine a créé 1,8 million d'emplois en juillet, beaucoup moins qu'en juin. Le redémarrage de l'activité a été ralenti par la résurgence du coronavirus d'après le département du travail. Les analystes attendaient 2 millions d'emplois en juillet. Le mois de juin avait enregistré un record avec 4,8 millions de créations d'emplois. En juillet, le taux de chômage s'établit à 10,2%.
La page de sport avec Bada Sekoura.
Bonjour à tous. On commence par du basketball. Le basketteur nigérien Michael Ojo, qui jouait auparavant pour l'Étoile Rouge de Belgrade, est décédé à l'âge de 27 ans lors d'une séance d'entraînement dans la capitale serbe ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé le club. Nous sommes profondément attristés par cette nouvelle, a déclaré à l'AFP le porte-parole du Red Star, Igor Vujicin. Le club n'a pas pu confirmer la cause du décès, mais les médias locaux ont rapporté qu'Ojo avait subi une crise cardiaque née à Lagos. Ce joueur de 2,16 mètres a joué pour la Florida State University ici aux États-Unis avant d'aller en Europe pour commencer sa carrière professionnelle. Après un passage avec l'équipe de Belgrade FMP Zelenik, il a rejoint le géant européen Red Star où il a passé deux saisons. Devenant rapidement un favori des fans, Ojo n'avait plus de club depuis le 30 juin, mais s'entraînait à Belgrade. Son ancienne équipe a publié une déclaration déplorant la perte du joyeux géant. Au Cameroun, le ministre des Sports, Narcisse Mouel-Kombi, a suspendu le président de la Fédération de Karaté, Maître Wakam Emmanuel, pour le harcèlement sexuel des athlètes. Cette suspension est le résultat de conclusions de la commission d'audition installée pour enquêter sur les allégations d'atteinte aux mœurs causées par les responsables de cette discipline sportive. La dite commission a entendu 100 personnes, dont les dirigeants de la fédération. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, visé par une procédure pénale en Suisse, assure n'avoir, je cite, « rien à cacher ». Dans une lettre adressée aux fédérations membres où il déplore le préjudice considérable causé à l'instance et à lui-même, dans cette lettre envoyée aux 211 fédérations membres et obtenue vendredi par l'AFP, Infantino souhaite expliquer la situation, je cite, de manière claire et précise, en raison de la résonance médiatique que cette décision a suscitée. Le successeur de Sepp Blatter est visé depuis le 30 juillet par une procédure pénale en Suisse, le procureur fédéral extraordinaire estimant qu'il y a des éléments constitutifs d'un comportement répréhensible en rapport avec la rencontre entre le procureur général Michael Lober, le président de la FIFA et le premier procureur du Haut-Valais, Rihaldo Arnold, ami d'enfance de Infantino.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les réactions se multiplient en Côte d'Ivoire au lendemain de l'annonce par le président Alassane Ouattara qu'il va briguer un troisième mandat. L'opposition a fustigé sa décision, jugeant que la Constitution lui interdisait de se représenter à l'élection présidentielle d'octobre, alors que ses partisans applaudissent. Reportage à Bouaké de Siriki Barou.
Même si ses partisans ont accueilli l'annonce avec des cris de joie, le troisième mandat d'Alassane Ouattara suscite de vives réactions en Côte d'Ivoire. L'artiste Mewé, star ivoirienne de la musique, qui avait publiquement soutenu Ouattara en 2011 lors de la crise post-électorale, s'est insurgé contre ce troisième mandat.
En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombre dans nos croyants éloignés à jamais. Dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, monsieur le président, échoué. Et il faut le reconnaître. En renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop.
Au sein de la société civile, on préfère rester prudent, même si les risques de dérapage sont réels, selon Doumia Smaïla, président régional de la plateforme de la société civile.
Bon, ça c'est sûr que nous allons voir quelques troubles avec l'opposition, qui d'ailleurs depuis un certain moment commence à dénoncer la candidature du président de la République. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous prenons acte de ce que le président de la République a annoncé. Et je pense que c'est un choix que le président de la République a fait. Nous respectons son droit de citoyen. Nous respectons aussi son droit d'engagement politique. Et nous ne pouvons que observer.
Chez les opposants, c'est un passage en force que le président Alassane Ouattara veut imposer à la Côte d'Ivoire. Traoré Daouda est le président régional du GPS, le parti dirigé par Guillaume Soro.
Cette décision du président de la République de briguer un troisième mandat est anticonstitutionnelle, évidemment. J'en veux pour preuve l'article 183. J'entends ici et là dire que la nouvelle constitution annule toutes les lois antérieures. Mais en ce moment, pourquoi faire la précision de l'article 183 si tel était que la nouvelle constitution mettait à zéro les compteurs?
Les débats autour de ce troisième mandat d'Alassane Ouattara ne font que commencer. Un débat sur lequel la Cour constitutionnelle est très attendue. Siriki Barou, Bouaké, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En Mauritanie, la démission surprise du Premier ministre Ismaël Ould Cheikh Sidya, après seulement quelques mois à la primature, suscite beaucoup de commentaires à Nouakchott. Ce changement au sommet de l'État laisse libre cours à de différentes interprétations de la classe politique. Le point avec Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott.
Du côté de l'UPR, parti de la majorité présidentielle, l'ancien ambassadeur Mortar Ouldoudahi indique que le président Razouani a usé de son droit constitutionnel.
La démission du premier ministre mauritanien Ould Daoud Cheikh Sidya et la nomination d'un nouveau premier ministre Mohamed Ould Bilal sont un signe de santé de la démocratie mauritanienne. L'acceptation de la démission d'un premier ministre et la nomination d'un autre premier ministre relève constitutionnellement de la compétence exclusive du président de la République.
L'opposant Biram Dahabed évoque, lui, des raisons d'échec politique.
Ce gouvernement n'a pas pu avancer sur les questions cruciales de la Mauritanie. Les questions de fond, malgré les changements dans la forme, l'apaisement que le président de la République, Mohamed Cheikh Azouani, a pu opérer avec les acteurs de l'opposition.
Mais tout se met en corrélation, le départ du Premier ministre et le rapport de la commission d'enquête parlementaire dans lequel il est cité. Rappel des faits, en 2010, Ismaël Ould Cheikh Sidya, alors ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, signait au nom de l'État un contrat de pavage et d'installation de matériel de surveillance et de sécurité à la présidence de la République. Dans ce contrat, la commission d'enquête parlementaire souligne des irrégularités, mais surtout une hausse de 100% du coût initial qui passe de 35 à 67 millions de dollars américains environ.
Sans raison valable selon la commission.
Ce gouvernement, beaucoup de ses membres sont impliqués dans les fameux rapports de la commission parlementaire d'enquête sur la gabégie.
Mais après le départ d'Ismaël Oudouchar Sidiya, son poste ne pouvait pas rester longtemps vacant, surtout en cette période de lutte contre la pandémie du COVID-19. Un remplaçant a été donc vite désigné en la personne de Mohamed Ouldou Bilal.
Le nouveau Premier ministre, M. Mohamed Ouldou Bilal, est un brillant ingénieur et un ancien ministre de probité certaine confirmée. Et les Mauritaniens placent lui des espoirs pour la constitution d'un gouvernement de haute compétence, un gouvernement d'action.
Il faut relancer l'économie affectée par le COVID-19 et lutter contre les virus. D'autre part, dérouler la politique d'ouverture du président Razouani et continuer la lutte contre la corruption, la raison d'être même de la commission d'enquête parlementaire. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est l'émotion au Sénégal et dans la communauté sénégalaise de Denver, au Colorado, après la mort dans un incendie de 5 personnes d'une même famille. La police a ouvert une enquête indiquant avoir des preuves d'incendie volontaire. Mais il n'y a pas encore d'arrestation et le président sénégalais Macky Sall a, dans un tweet, promis de suivre cette affaire qu'il qualifie de très grave. Pour un témoignage, Eric Manirakiza a joint à New York Barou Thiam, un membre de la communauté sénégalaise qui a bien connu l'une des victimes.
En fait, c'est toute une famille qui a péri, c'est la famille de Djibril Diol. Djibril Diol est un jeune garçon dont je connais le père depuis 23 ans, Abdoulaye Djibril. Il devait avoir la trentaine à peu près. Et je lui ai dit qu'il pouvait s'inscrire à CUNY, City University of New York, ou bien à State University of New York, et qu'il ne payerait rien du tout, mais qu'il y avait beaucoup de distractions à New York. Et il m'a dit qu'il aimerait aller dans un endroit où il pourrait étudier tranquillement, et que son objectif, c'était vraiment les études. Donc, orienté vers le Colorado, à Silverton précisément, où se trouvait un ami de son père et un parent à moi, Abou Mabiala, qu'il a pris sous sa protection et qu'il a inscrit dans une community college. Et il a excellé, il était brillant. Il est même venu premier de sa classe durant sa deuxième année à l'université. Il a terminé ses études, il a eu un très bon boulot comme, je crois, ingénieur des travaux publics. Et il a commencé à travailler, il a fait venir sa femme et sa fille et il a déménagé à Denver. Et c'est là où la tragédie a frappé. Et dans cette nuit tragique, il a perdu la vie. Sa femme a perdu la vie. Sa fille a perdu la vie. Sa sœur qu'il avait fait amener chez lui et l'enfant de sa sœur ont aussi péri dans l'incendie. Apparemment, selon le commissaire de la police de Denver, il y a des preuves que l'incendie est d'origine criminelle. Mais ceci sera déterminé plus tard durant le cours de l'enquête.
Et son père, il est ici aux États-Unis. Il se trouve où maintenant et dans quel état?
Son père est résident de l'État de New York depuis 1997. Actuellement, il est passé à Denver avant-hier, mais il est résident aux États-Unis. Il est citoyen américain et réside ici à Brooklyn, New York.
Major de sa promotion, un garçon brillant qui voulait la tranquillité et qui réussit, est-ce que c'est pour cette raison qu'il perd finalement sa vie dans une circonstance aussi tragique que celle-là?
Bon, je ne suis pas sûr, mais selon certaines indications de la police et des sapeurs-pompiers de Denver, il y a des indices qui pointent vers un élément criminel de l'incendie. Je ne sais pas si quelqu'un a mis le feu à la maison ou bien s'il y a eu des problèmes, je ne suis pas très sûr, mais c'est ce que le commissaire de la police de Denver a dit.
Au niveau de la communauté sénégalaise, aujourd'hui, c'est un choc, même au niveau d'autres communautés. Mais est-ce que vous sentez une insécurité ici aux États-Unis ou c'est peut-être un acte isolé?
En disant que tout le monde est choqué, c'est une tragédie énorme. Je ne crois pas que la communauté soit elle-même ciblée. Je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait appeler d'isolé et que ça fait partie de l'insécurité de vivre dans certaines villes des États-Unis comme à New York, à Memphis ou bien à Denver.
C'était Barou Thiam, un membre de la communauté sénégalaise aux États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Joe Biden, le candidat démocrate présumé à la présidentielle, est en tête des sondages devant le président sortant Donald Trump. La pandémie de coronavirus rend la campagne difficile. Joe Biden n'ira pas à la convention démocrate à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour accepter la nomination de son parti. Force et faiblesse du candidat démocrate, un reportage de Mike O'Sullivan avec le récit de Lionel Gaïma.
C'est une année électorale comme peu d'autres. Un taux de chômage élevé, des troubles sociaux et des personnes confrontées au risque d'infection par une pandémie qui fait rage. Tous les facteurs contribuent aux mauvaises performances électorales du président Donald Trump dans les États clés où les élections de novembre pourraient être décidées. Et cette bataille s'étend à certains bastions républicains traditionnels. Une bonne nouvelle pour Joe Biden. Larry Sabato de l'Université de Virginie.
Si vous revenez 10 ans en arrière, je ne pense pas que vous trouverez beaucoup de gens qui disent que l'Arizona, le Texas et même la Géorgie seraient si compétitifs.
Mais cette année, ils le sont. Biden était le vice-président de Barack Obama et a joué un rôle majeur dans son administration. Élu au Sénat à 29 ans, Biden est un homme politique expérimenté. Joe Biden, candidat présidentiel démocrate.
Je vais dire quelque chose de scandaleux. Je sais comment faire fonctionner le gouvernement.
Barbara Perry, de l'Université de Virginie.
C'est quelqu'un qui a traversé de grandes tragédies dans sa vie, avec la mort de sa première femme et de sa fille dans un accident de voiture.
Puis, en 2015, il a perdu son fils aîné Beau d'un cancer. Ses tragédies personnelles et sa longue expérience en politique sont peut-être les raisons pour lesquelles ses opposants politiques ont du mal à générer contre lui la même hostilité que pour le dernier candidat démocrate. Même les partisans de Biden admettent qu'il manque de charisme, ce qui pourrait être un problème selon les analystes. Encore une fois, Larry Sabato de l'Université de Virginie.
Il est ennuyeux et cela lui ferait normalement plus de mal qu'à Donald Trump. Cela donne en fait aux gens un choix très précis et distinct.
Biden a survécu à une primaire compétitive battant une longue liste des candidats à l'investiture démocrate. Barbara Perry, de l'Université de Virginie.
Il s'est battu contre Bernie Sanders, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, mais il est vraiment modéré. Ce n'est pas un radical de gauche.
Son choix d'un colistier pourrait élargir son attrait, affirme Gold Jostein, faculté de droit de l'Université de Saint-Louis.
Cela ne changera pas la position d'une grande partie des électeurs, mais cela pourrait affecter la marge des résultats.
Pourtant, certains électeurs se disent mécontents du choix offert lors de cette élection. Sherry Baby Jeffy est analyste politique.
Il y a un groupe d'électeurs qui ont depuis été étiquetés comme des haineux et ce sont des électeurs qui n'aiment aucun des candidats à la présidence mais estiment qu'ils doivent voter.
Et dans cette élection sans précédent, chaque vote est important.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Michel Joseph, Lionel Gaïma, Joselle Maurissin et Georges Léonard Sagno. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraougo avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 15h à Washington, 19h en temps universel.